Théologie en liberté. En rangeant ma bibliothèque. Au micro, Michel Jasse et Olivier Roux. Alors, en rangeant notre bibliothèque, on n'est plus maintenant environné par les livres, mais plutôt par les manuscrits qui sont travaillés par Christian-Bernard Renfou. Je sais que, Olivier, tu es venu ici à Nîmes il y a quelque temps nous donner une conférence qui a impressionné beaucoup de monde sur les travaux de Christian-Bernard Renfou, qui a été un chercheur du CNRS, spécialiste des manuscrits grecs du Nouveau Testament. Et dans la précédente émission, on était en train de dire qu'en fait, en travaillant ces manuscrits anciens, il n'y a pas travaillé un petit bout de papyrus trouvé en Égypte, mais plutôt essayer de voir comment ces textes existaient en tant que corpus, les évangiles étant à côté les uns des autres, et de façon plus ancienne que l'édition que nous avons aujourd'hui, non pas dans l'ordre Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais dans l'ordre dès Smyrne en 120 après Jésus-Christ, donc très tôt, dans l'ordre Matthieu, Jean, Luc, Marc. Et je crois que Christian-Bernard Renfou, donc c'est à partir aussi du Codex de Bèze et puis des citations des Pères de l'Église qui confirment l'ancienneté de ce Codex de Bèze. Je crois que Christian-Bernard Renfou a vu que dans l'Évangile de Jean, il y avait ce récit, dans cet ordre, le récit bien connu de la femme adultère, qui nous semble vraiment un récit authentique, mais aujourd'hui, dans les apparats critiques de nos Bibles grecques, ben on dit que ça a été tantôt dans Luc. On ne sait pas trop qu'en faire. Il semble que c'est un texte ancien, mais pas classé dans nos évangiles du texte reçu.
Oui, alors le texte qu'on appelle aujourd'hui le Codex de Bèze, ou on l'appelle aussi le D05, c'est oui. Un système de classement quelconque, Il a une structure très particulière que Christian Renfou a mis 25-30 ans à découvrir. Et alors là, il faut quand même s'asseoir un peu avant d'écouter les bêtises que je vais raconter. Il faut passer par Pythagore pour comprendre la structure des quatre évangiles.
Ah.
Alors, ça n'est pas habituel.
Oui.
Ce n'est pas que les rédacteurs du Nouveau Testament que Polycarpe soit pythagoricien, mais il est très cultivé et il a lu Pythagore. Il a aussi lu Platon. Ce n'est pas qu'il soit platonicien, mais il a lu Platon. Les auteurs du texte, les rédacteurs du texte, sont des gens très cultivés. Ce ne sont pas des pêcheurs de poissons inspirés par le Saint-Esprit qui écrivent à la ligne au kilomètre. Ce sont des gens qui sont inspirés par le Saint-Esprit et qui sont très cultivés.
Oui.
Or, dans l'école pythagoricienne, on a découvert une structure de l'octave dans laquelle l'octave est divisée par moitié pour la quinte ou par un tiers, deux tiers pour la quarte, ou l'inverse, parce que je ne suis pas musicien, ça c'est un détail. Et il se trouve que Platon, pour décrire la relation entre le principe spirituel du un et le principe pluriel multiple du terrestre, du créé, etc., dit que c'est la structure de l'octave qui rend compte de cette relation.
Ah, d'accord.
Alors, au lieu d'écrire sur la couverture du Nouveau Testament texte sacré, comme on écrit aussi roman ou biographie, c'est toute la pâte des quatre évangiles qui relève de cette structure, d'une relation du simple au simple et du simple au double. Je m'explique. Il y a autour d'un axe rhétorique qui est la femme adultère qu'on trouve au premier tiers de l'évangile de Jean, qui est dans cette collection le deuxième évangile, il y a avant la femme adultère et après la femme adultère deux masses équivalentes de paroles de Jésus, de paroles de Jésus.
Oui.
Et autour de cette femme adultère, il y a un tiers de récits avant et deux tiers de récits après.
Oui. Ah, donc il y a vraiment une structure qui est éclairante.
Et c'est ça qui veut dire, vous n'êtes pas en train de lire le Midi Libre, vous êtes en train de lire un texte sacré.
Voilà. Ah, mais ça, je me rappelle toujours que Christian Bernard Renfou, à Montpellier, quand il donnait ses cours à la faculté de théologie, nous disait ne lisez pas les évangiles rapidement, comme si c'était un texte simple. Au contraire, c'est un texte très structuré. En fait, je sais qu'aujourd'hui, Christian Bernard Renfou travaille aussi avec des gens, des spécialistes juifs qui travaillent la Kabbale et l'écriture complexe, finalement.
Il n'entre pas dans les détails de la Kabbale.
Mais sans être vraiment adepte de la Kabbale, mais montrer que le texte ancien de l'Antiquité a une valeur symbolique beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, où on a l'habitude de lire très très vite et de façon malheureusement un peu superficielle, on note les miracles de Jésus, les choses comme ça.
Les miracles, on pourra en reparler dans un instant si tu veux.
Mais on peut en parler maintenant.
Non, je voudrais dire un dernier mot sur cette structure du simple double pour les collections de récits autour de la femme adultère qui se trouve dans le premier tiers de Jean. Dans l'évangile de Jean lui-même, il y a 5 grands discours de Jésus avant la femme adultère et 5 grands discours après. Oui. Il y a un tiers de masse de récits sur Jésus et 2/3 de récits sur Jésus autour de la femme adultère. Donc ça reproduit le même schéma. Et tous les petits protestants, tous les petits catéchumènes savent qu'il y a des évangiles synoptiques.
Oui.
Matthieu, Luc et Marc. Mais la seule raison pour laquelle il y a 3 évangiles plutôt que 1 qui raconte la même histoire, c'est qu'il fallait les raconter une fois avant la femme adultère et deux fois après la femme adultère. Pour dire, voyez, c'est un récit sacré, c'est pas un rapport journalistique.
Ah oui, ah, c'est tout à fait intéressant.
C'est la seule raison.
Mais est-ce que ça a un lien avec... Je sais que Christian Bernard Renfou dit qu'il y a 22 épisodes qui ont des... qui sont parallèles entre donc les épisodes qu'on trouve dans Matthieu et Marc et puis dans ceux de Luc et Marc.
Oui, alors c'est encore une autre de ces découvertes qui n'est pas acceptée, bien évidemment, mais ça viendra inéluctablement.
Oui.
Il a trouvé 22 épisodes, dont 2 sont doubles, donc ça fait 4 demi-épisodes, mais il y a 22 épisodes. Ça tourne toujours autour des chiffres 22 ou 24 pour une raison qui nous paraît idiote, mais qui était très importante dans l'Antiquité, c'est pour évoquer l'idée d'une totalité, d'une plénitude.
Oui.
De même qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, donc il y a une totalité, ou 24 lettres dans l'alphabet grec, une autre forme d'évoquer la totalité, il faut 22 épisodes. Ça veut dire j'ai tout dit. À travers j'ai tout expliqué. Quoi.
Oui, oui.
Voilà. Alors ces 22 épisodes, ce sont pour revenir un peu en arrière, ce qu'on appelle les synoptiques, tous les textes des synoptiques ne sont pas synoptiques. Il y a 40 récits qui sont synoptiques.
Oui.
40 évoquent l'épreuve que l'on dépasse, 40 jours au désert, etc. Et il y a 22 récits qu'on ne trouve pas dans les 3 évangiles, mais qu'on trouve parallèles 2 à 2, Matthieu-Marc ou Matthieu-Luc. Et à force de prendre un râteau et de ratisser... Mais c'est plus difficile que de ramasser des feuilles dans un jardin. Christian Renfou a découvert cette collection de 22 épisodes qu'il rapporte à Marc dans les années 64, c'est-à-dire avant la chute du Temple.
Non, alors vraiment, là aussi, dans les travaux de Christian Bernard Renfou, il y a un éclairage qui n'est pas toujours simple à suivre et à comprendre, mais c'est vrai que dans les religions, qu'elles soient juives, chrétiennes, musulmanes, on dit les textes sacrés sont simples, c'est simple. Et même la réforme s'est bâtie sur autour de la simplicité de l'écriture, alors qu'en fait, que Christian Bernard Renfou montre que l'écriture dans l'Antiquité, avec une langue beaucoup plus sophistiquée qu'on pourrait le croire, c'est un texte qui est écrit en faisant des allusions et avec des symétries et qui sont difficiles à comprendre aujourd'hui à l'heure de l'immédiateté, d'Internet et des choses assez simples où on lit le journal facilement comme si c'était un récit limpide. Alors que les textes donc, de l'époque biblique sont écrits au papier millimétré avec toutes ces allusions et qui en fait apportent un éclairage. Malheureusement, je crois que Christian Bernard Renfou montre que, avec le remaniement de ses collections de corpus, eh bien, il y a des allusions plus anciennes qui ont été perdues. On va continuer cette perspective après la pause musicale. Donc, en fait, cette lecture un peu compliquée, qui tient compte des symétries, des parallèles, des mots utilisés, etc., nous apporte... on est très loin de la lecture fondamentaliste et naïve de l'écriture. Un peu comme cette blague d'un pasteur fondamentaliste qui disait « Si la Bible me disait que c'était Jonas qui avait avalé la baleine, je le croirais. » Non, on n'en est pas à noter l'aspect miraculeux, etc. Il y a une lecture beaucoup plus symbolique que nous propose le travail sur les manuscrits grecs du Nouveau Testament, que nous propose Christian Bernard Anfou, que tu as beaucoup travaillé et étudié au livre Hérou.
Voilà, donc il ne faut jamais lire le texte biblique au premier sens du texte. D'ailleurs, ce n'est pas Christian Anfou qui le dit. Anfou le redécouvre chez un auteur ancien, Origène, qui dit « Dieu lui-même a voulu inscrire dans le courant du texte, des pierres d'achoppement,
oui,
qui aussitôt doivent nous amener à un second niveau de lecture. »
Ah voilà, un sens voilà, un peu caché finalement.
Dès qu'il y a une incohérence dans le texte, c'est pas une incohérence maladroite, c'est une incohérence voulue pour nous dire « attention, second degré de sens ». Par exemple, lorsque le malade... que Jésus va libérer des mauvais esprits,
oui,
demande à Jésus de mettre les mauvais esprits dans des cochons pour qu'ils aillent se suicider dans l'eau,
oui,
il faut que les cochons fassent 100 kilomètres. Si on regarde la géographie, c'est une incohérence.
Et oui, oui, oui.
Donc là, le lecteur doit dire second niveau de sens.
Oui, oui. Oui, tu fais allusion à ce récit qu'on trouve aussi dans Marc 5, là, avec les porcs qui se jettent.
Oui, alors, mais non, c'est exactement ça, voilà, oui.
On dit qu'ils se jettent dans la mer, alors on l'interprète aujourd'hui en disant, mais c'est à côté du lac de Galilée, etc. Non, c'est le terme mer, ça peut être la Méditerranée. Et en fait, Gérasa, et donc c'est la région est localisée dans l'évangile, dans le texte ancien, par Gérasa, qui est à 100 kilomètres déjà du lac de Galilée.
Tout à fait.
Donc ça pose un peu un problème. On n'imagine pas les porcs se jeter en faisant 100 kilomètres, je ne sais pas, en prenant l'avion. Mais pour voilà, ça. Et alors, en fait, donc les textes plus récents ont corrigé Gérasa en Gadara.
Voilà. Mais c'est une manière de voir les lieux où... On a des raisons d'aller vers un second niveau de sens.
Voilà, c'est-à-dire que la réécriture a voulu rendre plus historique et plus crédible les miracles de Jésus.
Quand il y a une incohérence extérieure, par exemple, faire 120 km pour se suicider alors qu'il suffit de se jeter par la fenêtre,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché.
Mais il y a quelque chose de très intéressant, et ça c'est la spécialité de Christian Anfou, c'est quand tu lis des dizaines de manuscrits côte à côte, quand apparaissent des variantes sur un mot, là, tu dis, c'est qu'il y avait une incohérence que les copistes ont essayé de corriger. Tu viens d'en parler toi-même en disant qu'ils ont remplacé Gérasa par Gadara, parce que ça serait 20 km plus près du lac de Tibérias. Ça ne résout rien.
Et puis en plus, même, je crois que ce sont les Byzantins qui ont construit un monastère à côté du lac de Galilée, voilà, et Gergesa, en fait, c'était pas
là,
du tout...
Là, on est dans la piété.
La piété récente, voilà. Ou alors, je me rappelle toujours de cet enfant qui était allé en Israël pour visiter les lieux sacrés, mais il disait, mais Jésus, il a vécu que dans les églises.
Voilà.
Non, mais c'est parce que tous les épisodes ont été marqués par une église qui essaie de sanctifier le lieu, alors qu'en fait, le texte est quelquefois symbolique, c'est peut-être pas un lieu qui est décrit, c'est peut-être une allusion qui est souvent un peu perdue aujourd'hui, le sens ancien plus symbolique, quelquefois on le découvre qu'en partie.
Voilà. Mais en résumé, cette histoire de la guérison du possédé de Gérasa, il faut le dire en clair, pour Paul, c'est pour Christian Anfou, oui, c'est la libération de l'apôtre Paul qui était enfermé dans les mauvais esprits, entre guillemets, c'est-à-dire l'enseignement légaliste des pharisiens,
oui,
et qui va vers ce qui sera, mais ça c'est après, c'est plus tard, c'est lui qui l'aura construit, vers la christologie.
Oui, ah oui. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le Guéraza primitif est sur le chemin de Damas.
C'est sur le, c'est, voilà, exactement. Entre Jérusalem et...
Et c'est le chemin de Damas, que Paul est rencontré par le ressuscité.
Voilà.
Et en fait, donc, oui, alors c'est lié au fait que...
Il y a un indice que c'est l'apôtre Paul, c'est pas une preuve, mais oui. Dans le récit, il y a 5 ou 6 indices que ça nous ramène à Paul. Il y en a un qui est intéressant quand même, c'est que ce jeune guéri, ce jeune libéré oui. de l'enseignement pharisien demande à Jésus de le suivre pour devenir un apôtre parmi les autres, un disciple parmi les autres. Et Jésus lui dit non, toi tu ne nous suis pas, tu vas dans la Décapole. La Décapole, c'est une région géographique qu'on trouve sur les cartes de géographie dans nos Bibles, mais c'est aussi une allusion aux 10 villes des 2 voyages missionnaires de Paul.
Ah oui, non, alors donc, ça, en fait, pour expliquer aux auditeurs, c'est que souvent, alors là, les exégètes majoritaires et qui n'écoutent pas les travaux et les découvertes de Christian Bernard Renfrou, place toujours Marc comme l'évangile primitif, oui. À partir duquel Matthieu et Luc ont corrigé et ont été écrits.
Oui.
Et en fait, Christian Bernard Renfrou, grâce aux travaux sur le codex de Bèze et puis certains manuscrits et certaines citations des pères de l'Église, pense qu'au contraire, Marc, mais d'ailleurs dans l'ordre Matthieu, Jean, Luc, Marc, comme dans le codex de Bèze, Marc est le dernier des évangiles et qui est beaucoup plus symbolique alors que c'était avec le proto-Matthieu qu'on est plus proche des paroles et de l'enseignement ancien de Jésus.
Oui.
Avec Marc, on est dans un texte beaucoup plus théologique qui fait allusion, enfin qui parle de Jésus, mais qui fait allusion aussi à ce qui s'est passé par la suite dans l'Église primitive avec l'apôtre Paul.
Dans la structure des 4 évangiles, dans l'ordre Matthieu, Jean, Luc, Marc, l'hypothèse de Christian Renfrou, c'est que dans les 3 premiers évangiles, on a les 3 mouvements qui sont à l'origine de ce qui deviendra l'Église chrétienne,
oui.
Dont l'un sera laissé à l'écart. Il y a le salut par l'accomplissement du commandement de Jésus, va et aime ton prochain, c'est la loi renouvelée.
Donc, l'orthopraxie, quoi, finalement.
C'est un peu ça, mais on est encore sauvé par la loi. C'est la loi renouvelée par Jésus, mais c'est toujours la loi.
Une sorte de suivance, voilà. On va suivre ce que Jésus nous propose comme admirable, quoi.
Voilà. Dans l'évangile de Jean, il y a une allusion au mode de salut de la communauté d'Alexandrie,
oui.
Qui est dirigée par un frère de Jésus qui rédigera l'évangile selon Thomas.
Oui, donc, alors voilà, c'est Thomas, Christian Bernard Renfrou, voilà. N'oublie pas les textes apocryphes.
Voilà.
Et en fait, autour de Jean, qui a un peu une sensibilité déjà pré-gnostique,
voilà.
il met l'évangile de Thomas.
Jean, dans l'hypothèse de Christian Renfrou, c'est un disciple qui a suivi les gens d'Alexandrie, puis qui est venu à l'évangile annoncé par Paul.
Oui.
Donc son évangile, selon Jean, entre dans l'évangile, mais il a encore le vocabulaire des futurs gnostiques.
Oui.
Les oppositions jour, nuit,
oui,
vérité,
oui.
etc. Bon.
Attends, je
termine. Donc il y a le salut par le respect de la loi, va et aime ton prochain.
Oui.
Le salut par la connaissance que la grande Église récusera. Ce mouvement, on le trouvera aujourd'hui chez les francs-maçons, chez les...
Oui, ceux qui sont issus un peu du gnosticisme, finalement.
Et Luc, c'est l'évangile paulinien, le salut par la foi.
Oui, mais aussi...
Et Marc, c'est la synthèse de ces 3, c'est pas un 4e mouvement.
Ah d'accord, voilà, c'est ça qui est formidable. Mais alors ce qu'il y a, c'est qu'aussi, il montre que dans Christian Bernard Renfrou, montre que par exemple dans Luc, il y a aussi une influence, de même qu'il y a dans Jean une proximité avec ce qui va donner le gnosticisme, mmh. avec Thomas, etc.
Ouais.
Et bien dans Luc, il y a aussi une influence de Marcion, cet hérétique, puisque le Notre Père... Le Notre Père dans Luc, qui est résumé, aurait été censuré, résumé, peut-être par l'influence de Marcion. Alors que le Notre Père de Matthieu serait plus primitif.
Je ne pense pas que Christian Renfrou dirait qu'il y a une influence positive de Marcion, mais il y a des traces de l'influence de Marcion.
D'accord.
Sur une rédaction simplifiée du Notre Père. Mais la vérité est qu'on trouve notre père originel plutôt dans Matthieu et qui le reprend lui-même de la Didaquée, Oui. L'enseignement des apôtres, où on a sa forme originelle.
Donc un autre texte, oui, qui est séparé, qui
un texte très structuré, structuré lui aussi. Il y a trois demandes simples.
Le Notre Père. Oui, le Notre Père, oui.
Quatre demandes doubles pour les relations entre les hommes. Au début, il y a un prologue, à la fin, un épilogue. Et au milieu, une chose très curieuse, que ta volonté sur la terre soit faite comme au ciel. Oui. C'est-à-dire que maintenant, c'est une allusion à la venue du Messie qui supprime le firmament, qui, dans les récits de la Genèse, est la seule des créations qui n'est pas réputée bonne. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est juste là. Oui. Donc elle est passagère. Eh bien, oui. La venue du Messie la supprime. La volonté de Dieu peut être faite sur la terre comme au ciel. C'est du moins le système théologique qui nous est présenté.
Alors je voudrais que tu nous parles aussi d'un autre exemple. Christian Bernard Renfou a montré que dans le texte ancien, dans Marc, eh bien, il y avait, pour présenter Jésus marchant sur l'eau, cette phrase « et aussitôt étant ressuscité », puis après, il y a le récit qui arrive.
Oui, oui.
Alors qu'après, on a enlevé cet aspect pour ne garder que le miraculeux, Jésus qui marche sur l'eau, donc, etc. Voilà. Alors qu'en fait, c'était un récit du ressuscité, c'était une vision qui a été placée au cœur de l'évangile de Marc.
Alors ça, c'est une autre des découvertes de Christian Fou qui n'est pas encore acceptée. Les 22 récits, les 22 collections qui sont parallèles, Marc, Matthieu ou Marc-Luc, eh bien... elles sont rédigées en 64, avant la chute du Temple, mais c'est la première fois qu'on raconte des choses sur Jésus. Avant, on écoutait les paroles de Jésus. Il y avait les collections qu'on trouve dans Matthieu et dans Luc, et puis c'est Paul qui recommande à Marc et à d'autres, Luc en particulier, de parler sur Jésus.
Ouais.
Bon, eh bien, la première chose que fait Marc, c'est de parler... Du ministère, mais du Christ ressuscité.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire le ministère de Jésus, de sa résurrection à l'année 63, année de l'assassinat de Jacques.
Oui.
Et quand cette collection sera incluse en 120 par Polycarpe, au milieu des 40 récits des synoptiques, on fera comme s'il faisait partie du ministère terrestre de Jésus.
Ah, oui,
et
d'accord.
On supprimera ce « étant ressuscité ».
Ah, oui,
ce qui me fait de la peine, et Christian en particulier aussi, c'est que ce « étant ressuscité » était noté dans les notes comme une variante.
Oui.
On ne disait pas s'il était plus ancien ou postérieur, mais non. Maintenant, on ne la cite même plus. Quoi.
Paracritique des Nouveaux Testaments grecs.
Voilà.
Donc en fait, c'est vrai qu'on peut être mécontent des éditeurs qui mettent des paracritiques pour faire scientifique, mais qui ne vont pas aussi loin que l'étude réelle des manuscrits grecs du Nouveau Testament.
Mmh.
En fait, est-ce que tu veux qu'on parle aussi de ce que... Christian Bernard Renfou propose comme hypothèse, parce qu'il a à dire qu'il y a eu des remaniements, et en fait, il y a des choses qui se sont un peu perdues dans les rapports de force, de même qu'aujourd'hui, ces hypothèses ne sont pas suivies par les exégètes majoritaires, mais qui sont, en général, pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament grec, l'histoire des évangiles, c'est assez éclairant et vraiment impressionnant. Mais de même, dans l'Église ancienne, l'ancienne Écriture a été un peu masquée au profit de ce que tu le disais, de l'aspect miraculeux et naïf, finalement, d'une lecture qui a été celle de la Grande Église. En fait, je me souviens que Christian Bernard Renfou avait dit que peut-être les paroles de Jésus tournaient autour de l'indissolubilité du mariage, comme pacte monogame, alors, dans un contexte un peu ascétique, où alors en fait, il aurait devant, alors que les rabbins de son époque insistaient sur les concessions que Moïse aurait faites pour pouvoir expliquer qu'on pouvait envoyer une lettre de divorce, bien Jésus était un peu idéaliste, et ça a été un peu oublié dans l'histoire du remaniement des textes. Et aujourd'hui, c'est pas très théologiquement à la mode, puisqu'on a beaucoup, dans le protestantisme, on accepte le fait qu'il y ait des divorces, que des pasteurs soient divorcés, alors que le Christian Bernard Renfou nous propose un Jésus qui ne lui ressemble semble pas, parce que lui-même est très libéral et ouvert aux évolutions de la société, mais il nous présente peut-être un peu un Jésus qui irait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé dans les travaux de Christian Bernard Renfou?
Cette question du non au mariage, elle remplace une position de force, un axe théologique des prégnostics d'Alexandrie,
oui,
qui disait qu'il fallait réunir le mâle et le féminin en nous.
En nous-mêmes, oui,
par exemple, la dernière parole de l'Évangile selon Thomas, c'est la dernière parole, la 114e.
Oui.
Les disciples disent à Jésus, « Mais Marie ne pourra pas venir avec nous dans le royaume des cieux. » Et Jésus, encore à cette époque-là, on lui fait dire, « Mais si, lorsqu'elle aura réuni en elle le masculin et le féminin, eh bien, elle viendra avec nous. »
Voilà.
Mais ce principe idéologique, ce principe philosophique de la réunion...
Un peu gnostique, oui.
Qui mènera plus tard à l'ouverture des monastères où on ne se marie pas. Ce
oui.
sont les ancratiques, etc. Eh bien, Paul le refuse.
Oui.
Et il dit, il y a un principe de désunion. Vous pouvez vous désunir.
Oui.
Ça va être une règle de vie, mais vous ne pouvez pas vous remarier. C'est encore en vigueur dans l'Église catholique,
dans l'église,
par exemple.
C'est ça, oui, et dans l'Église orthodoxe.
Écoute, oui, voilà.
Oui. Non, mais écoute, vraiment, je crois qu'avec les auditeurs, on te remercie, Olivier, de nous avoir ouvert à cette recherche intellectuelle avec les travaux de Christian Bernard Renfou, qui a fêté ses 80 ans il y a peu de temps. Il y a
la semaine dernière, oui.
Tout un livre qui va être publié, un collectif à cette occasion. Mais aussi, on peut trouver dans le journal des pasteurs retraités en France plusieurs articles que tu as écrits sur Christian Bernard Renfou. Donc, sur Internet, on peut te les trouver.
Trois petites notes pour donner envie de
plus,
lire Christian.
Plus profonde que trois petites notes. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Au revoir.
Partagez vos événements sur agenda@radioalliance-plus.fr.